Chapitre 3. Que représentaient ces deux hommes qui venaient de lutter à mort, Marius et Sylla? Marius représentait l'Italie, Sylla représentait Rome. La victoire de Sylla sur Marius avait été le triomphe de Rome sur l'Italie, celui des nobles sur les riches, des hommes portant la lance sur les hommes portant l'anneau, des quirites sur les chevaliers. 1600 chevaliers et 40 sénateurs du même parti furent proscrits. Ici, proscrit ne veut pas dire exilé, il veut dire tué, massacré, égorgé. Leurs biens passèrent aux soldats, aux généraux, aux sénateurs. Marius avait tué brutalement et comme un rustre d'Arpinum. Sylla tua en aristocrate, méthodiquement, régulièrement. Chaque matin, il lançait sa liste, chaque soir, il en vérifiait le total. Il y avait telle tête qui valait 200 talents, 1200 000 livres. Il y en avait d'autres qui ne valaient que leur poids en argent. On se rappelle cet égorgeur qui avait coulé du plomb dans le crâne de la sienne afin qu'elle pesât davantage. Être riche était un motif pour être proscrit. L'un était proscrit pour son palais, l'autre pour ses jardins. Un homme qui n'avait jamais pris parti ni pour Marius ni pour Sylla lit son nom sur la liste nouvellement affichée. Malheureux, dit-il, c'est ma ville à d'Albe qui me tue. Les proscriptions ne se bornaient point à Rome, elles s'étendaient à toute l'Italie. Non seulement les suspects étaient mis à mort, bannis, dépouillés, mais aussi leurs parents, leurs amis, mais encore ceux qui, les ayant rencontrés dans leur fuite, avaient échangé une seule parole avec eux. Des cités étaient proscrites comme des hommes. Alors on les pillait, on les démantelait ou on les dépeuplait. L'Étrurie fut presque entièrement rasée et, en échange, dans la vallée de l'Arno, sous le nom sacerdotal de Rome, Flora, une ville, fut fondée. Rome avait trois noms. Un nom civil, Roma. Un nom mystérieux, Eros ou Amor. Un nom sacerdotal, Flora ou Anthusa. Flora s'appelle aujourd'hui Florence. Cette fois, l'étymologie est facile à retrouver. Sylla avait exterminé la vieille race italienne sous le prétexte d'assurer la sûreté de Rome. Rome, selon Sylla, était menacée par les Alliés. Ceux-ci avaient fait signe aux barbares qu'ils pouvaient venir et les Chaldéens, les Phrygiens et les Syriens étaient accourus. À la mort de Sylla, le peuple de Rome n'était plus romain. Ce n'était même plus un peuple, c'était un ramas d'affranchis et de fils affranchis dont les grands-pères, les pères et eux-mêmes avaient été vendus sur les places publiques. Sylla, nous l'avons dit, à lui seul, en avait affranchi 10 000. Déjà, du temps des Gracchus, c'est-à-dire 130 ans avant Jésus-Christ, 50 ans environ avant la mort de Sylla, le forum n'était plein que de 7 canailles. Aussi, un jour qu'elle faisait grand bruit, empêchant Scipion Émilien de parler, « Taisez-vous, bâtard de l'Italie !» cria celui-ci. Puis, comme il menaçait, il marcha droit à ceux qui lui montraient le poing et leur dit « Vous avez beau faire, ceux que j'ai amenés garrottés à Rome ne me feront pas peur, tout déliés qu'ils sont maintenant. » Et, effectivement, devant Scipion Émilien, ils se turent. C'était dans cette Rome et au milieu de ce peuple que, s'il la mort, revenait César, c'est-à-dire l'héritier et le neveu de Marius. Soit qu'il ne crut pas que l'heure de marquer sa place fût arrivée, soit que, comme Bonaparte demandant, après le siège de Toulon, du service en Turquie, il ne vit pas encore clair dans sa fortune, César ne fit que toucher barre à Rome et repartit pour l'Asie où il fit ses premières armes sous le préteur Thermus. La probabilité est qu'il attendait que les troubles causés par un certain Lépide fussent calmés. Ne pas confondre ce Lépide avec celui du Triumvirat. Celui-là était un aventurier, un champignon de hasard, qui, battu par Catulus, mourut de chagrin. Rome, plus calme, César revint pour accuser de concussion Dolabella. C'était un excellent moyen, non seulement de se faire connaître, mais encore d'arriver vite à la popularité que l'accusation. Seulement, il fallait réussir ou s'exiler. César échoua. Il résolut alors de se retirer à Rhodes, tant pour se dérober aux nouveaux ennemis qu'il venait de se faire que pour étudier l'éloquence qu'il n'avait point assez étudiée à ce qu'il paraissait, puisque Dolabella l'avait emporté sur lui. En effet, à Rome, tout le monde était avocat peu ou prou. On discutait rarement, on plaidait toujours. Les discours étaient de véritables plaidoyers déclamés, modulés, chantés. Beaucoup d'orateurs avaient derrière eux un joueur de flûte qui leur donnait le la et qui les rappelait au ton et à la mesure quand ils parlaient faux. Tout le monde avait le droit d'accuser. Si l'accusé était citoyen romain, il restait libre. Seulement, un ami le cautionnait et, la plupart du temps, un magistrat le recevait dans sa maison. Quand l'accusé était un chevalier, un quirite ou un patricien, l'accusation mettait Rome sens dessus dessous. C'était la nouvelle du jour. Le Sénat prenait parti pour ou contre l'accusation. En attendant le grand jour, des amis de l'accusateur ou de l'accusé montaient à la tribune et échauffaient le peuple pour ou contre. Chacun cherchait des preuves, achetait des témoins, fouillait de tous côtés pour trouver la vérité et, à défaut de la vérité, le mensonge. On avait 30 jours pour cela. Un homme riche ne peut être condamné, criait tout haut Cicéron. Et Lentulus, acquitté à 2 voix de majorité, s'écriait « J'ai jeté 50 000 sesterces par la fenêtre ». C'était le prix qu'il avait payé une des 2 voix, laquelle était superflue, puisqu'une seule eût suffi pour le faire acquitter. Il est vrai que c'était dangereux de n'en avoir qu'une seule. L'accusé, en attendant le jour du jugement, parcourait les rues de Rome en haillons. Il allait de porte en porte, réclamant la justice et même la miséricorde de ses concitoyens, se mettant à genoux devant ses juges, priant, suppliant, pleurant. Ces juges, quels étaient-ils? Tantôt les uns, tantôt les autres. On les changeait pour que les nouveaux ne se vendissent pas comme les anciens, et les nouveaux se vendaient plus cher. Les Gracques enlevèrent en 630, par la loi Sempronia, ce privilège aux sénateurs et le donnèrent aux chevaliers. Sylla, en 671, par la loi Cornelia, partagea ce pouvoir entre les tribuns, les chevaliers et les représentants du trésor. César, sous l'empire de la loi Cornelia, avait eu une affaire au Sénat. Le débat durait 1 jour, 2 jours, quelquefois 3 jours. Sous le soleil ardent de l'Italie, dans ce forum où les deux parties se heurtaient comme les flots d'une mer houleuse, l'orage des passions grondait et les éclairs de la haine passaient comme des serpents de flamme sur la tête des auditeurs. Puis ces juges, n'essayant pas même de chasser de leur front et de leur regard la sympathie ou l'antipathie, passaient devant l'urne. Ils étaient quelquefois 80, 100 et même davantage et déposaient le vote qui absolvait ou qui permettait l'exil aux coupables. C'est ainsi que, l'an 72, l'exil fut permis à Verrès sur l'accusation de Cicéron. La lettre A, qui voulait dire « absolvo », avait été en majorité pour Dolabella, et Dolabella avait été absous. Comme nous l'avons dit, César partit donc de Rome. Lysée fut obligé de s'enfuir de Rome pour Rhodes. À Rhodes, il comptait sur un fameux rhéteur nommé Molo. Mais César comptait sans les pirates. César ne portait pas encore avec lui sa fortune. Il fut pris par les pirates qui infestaient la Méditerranée. Disons un mot de ces pirates qui, vers l'an 80 avant Jésus-Christ, jouaient à peu près dans les mers de Sicile et les mers de Grèce le rôle qui jouaient au XVIe siècle les corsaires d'Alger, de Tripoli et de Tunis.